Aujourd'hui, je vous présente la lecture sur le cycle humain, la psychologie du développement social, traduit de l'anglais par mère. Alors, je vais vous lire le chapitre 22, la nécessité de la transformation spirituelle. La société humaine n'est jamais allée plus loin dans le passé, mais bien que ce doive être une étape nécessaire du voyage, s'arrêter là, c'est marquer le fond de l'affaire et la seule chose nécessaire. Ce qui est nécessaire, ce n'est pas une humanité qui mène sa vie ordinaire, sa ronde normale d'à présent, effleurée par quelques influences spirituelles, mais une humanité qui aspire de tout son cœur à une loi encore anormale pour elle, jusque ce que sa vie tout entière s'élève à la spiritualité, car tel est le chemin escarpé qui doit conduire l'homme à sa perfection, et tel et la transformation qu'il doit accomplir. Le secret de la transformation est de transférer le centre de notre vie à une conscience plus haute et de changer le pouvoir moteur principal de notre existence. Ce sera un saut ou une ascension encore plus prodigieuse que celle que la nature a dû accomplir à un moment donné, lorsqu'elle est passée du mental vital de l'animal au mental pensant, encore imparfait, de notre intelligence humaine. La volonté centrale implicite dans la vie ne doit plus être la volonté vitale de la vie et du corps, mais la volonté spirituelle, dont nous n'avons maintenant que de rares intimations et de vagues aperçues. Car à présent, elle est à peine dévoilée quand elle nous parvient. Elle est affaiblie, déguisée sous l'idée mentale. Mais elle est supramentale par nature. Et c'est son pouvoir supramental et sa vérité supramentale que nous devons découvrir tant bien que mal. De même, le pouvoir moteur principal de notre existence ne doit plus être l'élan vital inférieur de la nature, qui a déjà touché son sommet en nous et ne peut plus guère que tourbillonner en rond autour du centre de notre ego. Mais cette force spirituelle, dont nous avons entendu parler parfois et dont nous parlons, mais dont nous ne possédons pas encore le secret profond, car elle est encore repliée dans les profondeurs de notre être, attendant que nous transcendions l'ego et que nous découvrions l'individu véritable, universel, qui par son universalité nous unira à tous les êtres. Transférer de l'être vital qui a la réalité instrumentale en nous à l'esprit, qui est la réalité centrale, notre volonté d'être et le pouvoir moteur de notre existence, et les élever à cette hauteur, tel est le secret que notre nature s'efforce de découvrir. Alors, il y a un nota bene. Selon Sri Aurobindo, chaque niveau évolutif possède son activité mentale propre. Et de même qu'il existe un mental pensant, intellectuel, il existe un mental vital qui régit les impulsions, les désirs, les instincts, et les besoins de la vie. Un mental physique qui enregistre les minuscules activités corporelles, ses craintes, ses peurs, ses attractions, et même un mental cellulaire très puissant qui garde toutes les empreintes et qui est la forteresse de nos mécanismes corporels et de nos habitudes de maladie, notamment. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent se borne à un effort à demi couronné de succès pour transférer au plan vital ce pouvoir et cette volonté. Notre tentative et notre labeur les plus hauts ont consisté à devenir un être mental et à vivre par la puissance de l'idée. Mais l'idée mentale en nous est toujours un intermédiaire et un instrument. Elle dépend toujours de quelque chose qu'elle-même pour fonder son action, et c'est pourquoi, bien qu'elle puisse poursuivre sa propre satisfaction séparée pendant un temps, elle ne peut pas en rester là toujours. Ou bien, elle doit graviter vers le bas et à l'extérieur, vers la vie physique et vitale. Ou bien, elle doit s'élever à l'intérieur et au-dessus, vers l'esprit. Et c'est pourquoi aussi dans la pensée, dans l'art, dans notre conduite et dans la vie, nous sommes toujours divisés entre deux tendances, idéalisme et réalisme. Cette dernière a toute chance de nous paraître plus réelle, plus solidement fondée, plus proche des réalités, parce qu'elle s'appuie sur des faits évidents, tangibles et déjà accomplis. La tendance idéaliste a tôt fait de nous sembler irréelle, fantastique, inconsistante, nébuleuse, une affaire de pensée et de mots plutôt que des faits vivants, parce qu'elle essaie d'incarner une réalité qui n'est pas encore accomplie. Nous avons peut-être raison jusqu'à un certain point, car l'idéal est un étranger au milieu des réalités de notre existence physique. Et en effet, il est irréel tant qu'il ne s'est pas réconcilié d'une façon quelconque avec les imperfections de notre vie extérieure ou tant qu'il n'a pas trouvé la réalité plus grande et plus pure qu'il cherche afin de l'imposer à nos activités extérieures. Ce transfert de notre volonté d'être et du pouvoir moteur de notre vie vers le haut doit donc venir le principe même de notre perfection. Cette volonté, ce pouvoir, doivent choisir entre la domination de l'être vital en nous ou la domination de l'esprit. La nature peut s'attarder à la ronde de l'être vital. Elle peut même y parvenir à une sorte de perfection. Mais c'est la perfection d'un développement figé, satisfait de ses propres limites. Elle peut s'en accommoder dans la plante et dans l'animal, parce que là, le corps et la vie sont tout à la fois l'instrument et le but. Ils ne regardent pas au-delà d'eux-mêmes. Mais elle ne peut pas en faire autant dans l'homme, car avec lui, elle a jailli au-delà de sa nature physique et vitale. Elle a développé le mental en lui, qui est l'épanouissement de la vie vers la lumière de l'esprit. Et la vie et le corps sont désormais les instruments et non plus leur propre but. Par conséquent, la perfection de l'homme ne peut pas consister à suivre la ronde obscure de la vie physique. Ce n'est pas non plus dans la ronde plus large de l'être mental que nous découvrirons la perfection, car lui aussi est un instrument et il tend vers quelque chose d'autre derrière lui, quelque chose dont le pouvoir agit en lui, certes, mais dont la vérité plus vaste est supraconsciente et supramentale pour son intelligence actuelle. La perfection de l'homme est dans l'épanouissement de l'esprit à jamais parfait. La perfection intérieure de la nature dans la plante et dans l'animal vient d'une obéissance instinctive et automatique, subconsciente de chaque espèce à la vérité véritable de son vital, de son être. La perfection supérieure de la vie spirituelle viendra d'une obéissance spontanée de l'homme spiritualisé à la vérité de son être accompli, quand il sera devenu lui-même et quand il aura trouvé sa nature réelle. Car cette spontanéité ne sera plus instinctive ni subconsciente. Elle sera intuitive et pleinement et intégralement consciente. Ce sera une obéissance joyeuse à un principe spontané de lumière spirituelle, à la force de la vérité la plus haute, de la beauté, du bien, du pouvoir, de la joie, de l'amour, des unités plus vastes, unifiées et intégrées. Le but de cette force, quand elle agira dans la vie, doit être, et ce sera de croître, de posséder et de jouir, comme il en est de toute vie, mais une croissance qui sera une manifestation divine, une possession de l'esprit dans les choses et une jouissance spirituelle, une jouissance qui se servira des symboles mentaux, vitaux et physiques de notre existence et qui ne dépendra pas d'eux. Par conséquent, ce ne sera pas la perfection limitée d'un développement figé qui dépend de la répétition des mêmes formes et d'une même ronde d'action et dont toute déviation est une source de perturbation et de péril. Ce sera une perfection illimitée, capable de variations sans fin dans ses formes, car les voies de l'esprit sont innombrables et sans fin, et pourtant inaltérablement la même dans toutes les variations, une et innombrablement infinie. Alors je continue et je vais terminer parce que la nécessité de la transformation spirituelle. Par suite aussi, cette perfection ne peut pas venir de l'idée mentale qui manierait l'esprit comme on manie la vie. L'idée mentale qui voudrait se saisir de la volonté centrale de l'esprit et essayer de donner à cette force supérieure une orientation et une méthode consciente conformément aux idées de l'intellect est une force trop limitée et trop obscurcie. Elle est trop pauvre pour accomplir ce miracle. Et cette perfection viendra encore moins si nous enchaînons l'esprit à quelque conception mentale fixe ou à quelque système du culte religieux, à une vérité intellectuelle, à une norme esthétique, une règle morale, une méthode d'action pratique, une manière de vivre vitale et physique, ou quelques combinaisons particulières de formes et d'actions. Et si nous déclarons que tout ce qui s'en éloigne trouble la vie spirituelle et la met en péril, ou en est une déviation de sa loi, c'est l'erreur que l'Asie a commise. Et c'est à cause de l'arrêt de son développement puis de son déclin car c'est soumettre le principe supérieur à l'inférieur et lier la révélation spontanée de l'esprit à un compromis provisoire et imparfait avec le mental et la nature vitale. La véritable liberté de l'homme et sa perfection viendront quand l'esprit immanent transpercera les formes du mental et de la vie, puis s'envolant vers les hauteurs flamboyantes de l'éther gnostique, se retournera du haut de cette lumière et de cette flamme vers les formes pour les saisir et les transformer à son image. En fait, nous l'avons vu, le mental et l'intellect ne sont pas le pouvoir clé de notre existence. Ils peuvent seulement décrire une ronde de demi-vérité et d'incertitude et tourner dans un cercle décevant. Mais caché dans le mental et dans la vie et dans toutes les activités de l'être intellectuel, l'être esthétique, éthique, dynamique et pratique, émotif, sensoriel, vital et physique, il existe un pouvoir qui voit par identité et par intuition, ce qui donne à toutes ces parties autant de vérité, de certitude et de stabilité qu'elles peuvent en contenir. Obscurément, nous commençons maintenant à entrevoir quelques lueurs de ce pouvoir derrière notre science, notre philosophie et toutes nos autres activités. Nous aussi longtemps que ce pouvoir sera obligé de travailler pour le mental et pour la vie, et non pour lui-même, de travailler à travers leur forme et non par notre propre lumière spontanée, nous ne pourrons pas faire grand usage de cette découverte ni obtenir tout le bénéfice naturel de ce diamant intérieur. Le chemin de la surhumanité spirituelle s'ouvrira quand l'homme déclarera hardiment que tout ce qu'il a cultivé jusqu'à présent, y compris l'intellect, et dont il est justement fier et pourtant si vainement, ne lui suffit plus désormais, et que maintenant sa préparation dominante est de découvrir, dégager et libérer cette grande lumière intérieure. Alors, sa philosophie, son art, sa science, son éthique, son existence sociale, ses recherches vitales ne seront plus des exercices du mental et de la vie sans autre but qu'eux-mêmes et qui tournent en rond, mais des moyens de découvrir une vérité plus grande derrière le mental et la vie et de faire entrer le pouvoir de cette vérité dans notre existence humaine. Alors, nous serons en bonne voie de devenir nous-mêmes, prêts à trouver la loi vraie de notre perfection et à vivre notre existence vraie et satisfaite dans notre être réel et notre nature divine. Je dépose cette lecture au pied de Sri Aurobindo, Ganga Lakshmi.